Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur l'émission
D'ici.
Je suis là-bas
sur CFM. Votre nouvelle émission conceptuelle présentée par Jamissi, mon partenaire et ami, et votre serviteur Jacari.
Bonjour.
Salut Jamissi. Le but, s'il y en avait un, parce que tout d'abord nous ressentons un immense plaisir à être ensemble en votre compagnie, c'est de nous faire découvrir des artistes, des musiques, des écrivains, des interviews, des carnets de voyage, de l'actu, des coups de gueule, mais surtout, surtout, du plaisir. Celui de la découverte de la diversité du métissage des savoirs et cultures. Nous retrouverons pêle-mêle des portraits, des chroniques, des feuilletons, des coups de pouce aux artistes de Midi-Pyrénées. Et oui, il faut bien rester un peu chauvin quand même. Et puis tout ce qui nous passera par le cortex au jour J et à l'instant T.
Et oui, Jacari. Et pour commencer l'émission, nous allons vous proposer un portrait. Le portrait d'un artiste connu des percussionnistes, surtout ceux qui sont motivés et qui ont pris le temps de se cultiver. Le portrait de Famoudou Konaté.
Effectivement, tout au long de l'année, nous aurons l'occasion de vous présenter des portraits. Portraits d'artistes, de musiciens, d'écrivains. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'apprécier avec vous leur art, leur virtuosité. Aujourd'hui, c'est le portrait de Famoudou Konaté, grand maître djembé. La musique du djembé, elle a suscité un grand engouement à la fin des années 80. J'en faisais moi-même partie. J'ai vibré au son de cet instrument qui nous transporte par sa musique, par son son, par sa puissance. À quoi reconnaît-on un grand maître djembé Fola? Lorsque l'on entend les trois premières notes, les trois premières mesures, on reconnaît sa griffe, sa patte. C'est lui et pas un autre. On reconnaîtra toute la virtuosité de Sungalo Koulibaly, toute la subtilité du jeu d'Adama Dramé, toute la précision de Mamadi Keïta, toute l'originalité de Dudu Ndiaye Rose, toute la sagesse de Bani Doumbia et toute l'efficacité et la sobriété de Famoudou Konaté. Cette musique, elle s'écoute, elle se vit, elle transpire. Et tel le premier baiser de la première fille au collège, elle nous met des petits picotements dans le bas-ventre. Elle nous hérisse le poil. Elle nous fait couler la petite larme au coin de l'œil. Elle irrigue notre corps. On est là. On la vit. Famoudou fait partie de ces artistes qui nous permettent de transcender cette musique. Il est né en 1940 à Manina, près de Sangbarala, petit village du Amana, dans la région de Kourousa, l'un des principaux berceaux de la culture malinké. Issu d'une des familles les plus importantes du village, son père était un grand chasseur féticheur dans la pure tradition animiste. À ce titre, il attachait une très grande importance à la musique, présente dans toutes les cérémonies sacrées relié à la cosmogonie africaine. Des mains de son propre père, il reçoit son premier petit djembé alors qu'il n'a que 2 ans. C'est dans ce contexte qu'il grandit, participant dès l'âge de 8 ans aux fêtes de la communauté. C'est son frère aîné qui, durant tout ce temps, va l'initier à la tradition du djembé. Les années de sa jeunesse vont être l'époque où il devient le batteur le plus réputé, apprécié et sollicité de la région. En 1958, la Guinée accède à son indépendance. Dans le cadre de la politique culturelle mise en place par le président Ahmed Sékou Touré, qui visait à la défense de l'art et de la musique guinéenne, les meilleurs artistes du pays sont recrutés lors d'une campagne nationale de sélection en vue de constituer la troupe des ballets africains de Guinée, flambeau de la révolution et des idéaux véhiculés par le régime. Famoudou a né, et c'est alors en 1962 qu'il entre dans les ballets. Il en devient tout de suite le chef tambour, place qu'il occupera durant 26 années. Cette aventure le mènera aux quatre coins du monde et l'enrichira des différentes cultures qu'il côtoiera. Famoudou est considéré par ses pairs comme l'un des plus grands batteurs de l'ethnie malinké. Il est l'un des rares à connaître de nombreuses polyrythmies traditionnelles, phrasées et solis qui les accompagnent. Famoudou Konaté a su rester en contact permanent avec le terroir, et malgré ses fréquents séjours en Europe, il demeure encore aujourd'hui en Guinée. Réputé excellent pédagogue, ses stages sont très recherchés. Son parcours est très proche de celui de Mamadi Keïta. En 1987, 3 ans après la fin du régime marxiste, il est invité en Allemagne par un connaisseur, Johannes Speer, afin de donner des stages et des concerts. Il en résultera une collaboration, et c'est avec Johannes Speer et Paul Bernhard Engel, deux Allemands, qu'il enregistrera l'album La Bible pour beaucoup de batteurs du Muséum Collection Berlinois Rhythmen der Malinké. Je vais vous faire découvrir un titre qui s'intitule Balakulania. Balakulania se joue tout comme le soli lors des fêtes de circoncision. Il est interprété presque continuellement pendant les 3 jours qui précèdent la circoncision des garçons et des filles. Pendant la dernière nuit, on joue du tambour et l'on danse, femmes et hommes confondus. Appréciez le son de la même propre de Famoudou Konaté. Thank you.
Ah, Famoudou, merci. Continue de nous ravir de tes sons clairs. C'est vraiment un des rares qui arrive à respecter le silence dans le rythme. Je profite pour vous donner les informations nécessaires que vous retrouverez sur son site www.famoudoukonate.com. Super beau site où il y a des vidéos, assez récentes d'ailleurs. Et sa discographie, parce que quand même, le garçon, il a été prolifique. Donc, le dernier album en date, qui s'appelle Amana Namoun, précédé par Amana Mandenkono, qui est sorti en 2004. Ensuite, il y a eu Guinée, Percussions et Chants Malinké, enfin, ensuite, avant, volume 2, en 2003. Amana Folikan, en 2003 aussi. Guinée, Percussions et Chants Malinké, en 98. Rhythmen un Leader House Guinea.
Yavol.
Ouais, je suis très fort pour l'accent allemand. En 1997. Et bien sûr, l'album que l'on vient d'écouter, Rhythmen der Malinké, dont Jacari vous a parlé tout à l'heure, qui est sorti en 1991. La suite de cette émission...
J'aurais juste une petite chose à rajouter.
Oui.
La seule petite chose, oui. C'est Famoudou. Allah ime encore. Dieu te souhaite une longue et grande vie.
Namu. On va continuer notre nouvelle émission D'ici je suis là-bas sur CFM avec la chronique Coup de gueule. Coup de gueule ou peut-être un jour ça sera une chronique coup de chapeau. Ça sera selon nos humeurs. Et aujourd'hui, le coup de gueule de l'émission, c'est encore et toujours lui, François Coquelard, n'en déplaise à Jacari, qui pense qu'on dit Coquelaire. Ça s'écrit K-O-K-E-L-A-E-R-E. C'est un petit coup de gueule donc de François Coquelard qui a publié sur son site un petit papier à propos d'un livre qui s'intitule « Percussion du Burkina Faso » par Alexandre Cellier, paru aux éditions Nouvelle Planète en 1999 en Suisse. Alors ce livre, visiblement, François, il n'a pas trop apprécié, enfin, sans plus. Et il a fait un petit papier très rigolo qui s'appelle « Bon voyage, monsieur Alex ». À la lecture de ce petit fascicule, je ne peux m'empêcher d'être à la fois ému de tant de compassion, d'amour de son prochain, de gentillesse et atterré par tant de naïveté bien pensante. Ce genre d'ouvrage me laisse perplexe car au fur et à mesure qu'on le décode, qu'on lit entre les lignes, qu'on le restitue dans son contexte, il apparaît comme un goût de déjà-vu et de déjà-lu. Décodons. Et pour cela, rien de tel que de commencer par la fin, par la conclusion.
Ah, ces conclusions. Pourquoi faut-il toujours des conclusions qui viennent foutre par terre nos illusions?
Pourquoi les idéalistes bontains ne se contentent-ils pas de nous narrer leur voyage sans nous livrer leurs états d'âme, sans se prendre pour des ethnomusicologues de supermarché ou des ethnosociologues de comptoir? On s'est dit en parcourant l'ouvrage, bon, il est un peu approximatif, mais il est sympa ce gars. Ah, il les aime ces Africains. Il participe au grand échange mondial des cultures. Bon, il est un peu caricatural dans le passéisme, dans sa vision de l'authentique. Mais les photos sont belles. Ah, il n'est pas méchant.
Mais ils ne sont jamais méchants.
Il est sincère.
Ils sont toujours sincères.
Ils tombent des nues, ils sont même blessés, les pauvres petits enfants du grand capital, quand on ose leur dire qu'ils participent malgré eux au formidable malentendu de notre relation à l'Afrique. Alors ils se retranchent derrière leur naïveté et leur humanisme.
Facile.
Bien sûr que la Suisse est l'un des pays les plus riches du monde et le Burkina Faso l'un des plus pauvres. Mais que faisons-nous des pauvres Suisses, eux?
Comme si la différence entre ces deux pays n'était qu'un problème de richesse. Et l'histoire, mon cher, l'histoire.
Si je comprends son raisonnement, c'est nous. Les pauvres sous-développés de la communication, de la famille, de la solidarité, et les pauvres petits Africains sont en fait très riches de nos propres lacunes.
Tu parles. Ce qu'ils veulent, nos copains africains, c'est manger tous les jours, et pas qu'on leur donne des leçons sur la richesse de leur culture.
Mais bon, pas d'histoire d'argent, entre nous. En bon franciscain de base, ce qu'il veut, Alex, c'est une relation humaine, et pourquoi pas spirituelle. Dès que le gars retournera en Suisse retrouver sa flûte de pan, et oui, parce qu'il pose en quatrième de couverture avec une flûte de pan à la bouche, si, si. Il bouffera à sa faim, et les Africains resteront dans leur précarité quotidienne. Il s'empressera de capitaliser son voyage sous quelque forme que ce soit, financière, valorisation personnelle, etc.
Facile d'avoir des vues sur la comète quand on est né du bon côté. Que pouvons-nous faire pour eux? Quand on veut les aider, on crée des assistés.
Eh bien mon gars, si c'est ça le problème, faut pas les aider. Faut travailler avec eux, tout simplement. Qu'ils gagnent de l'argent et puissent faire en profiter leur famille et leurs amis. Évidemment que rien n'est plus avilissant que l'assistanat. Mais nous nous y retrouvons encore et toujours dans cet assistanat qui nous permet d'exister, de trouver une raison de vivre, de réaliser un palliatif à la médiocrité de nos vies occidentales, de soulager notre dette karmique envers ce peuple. Quel est le choix? Vivre dans la misère, loin du monde, ou bouffer à sa faim dans la mondialisation? Eh oui, pas facile le choix. Ou on les laisse dans leur authenticité et l'Afrique crève de son immobilisme, ou on les accompagne dans le grand cirque mondial qui, de toute façon, ne nous a pas attendus pour déferler sur elle depuis déjà longtemps. À vouloir arrêter le temps en Afrique, on risque de l'enfermer dans une vitrine dont nous nous empresserons de jeter les clés au risque de devenir voyeurs. Il y a un côté safari moderne dans cette propension qu'ont les Blancs à utiliser l'Afrique comme leur terrain de jeu. Un côté Paris-Dakar.
N'est-ce pas une forme encore plus pernicieuse du néocolonialisme? Pourquoi les Africains n'auraient-ils pas droit au progrès technologique, à la modernisation, à l'instruction?
Il est vrai que nous préférons les voir authentiques, dans leur misère, pauvres, affamés, analphabètes, mais dignes. Refusant le grand capitalisme triomphant pour célébrer des vraies valeurs authentiquement traditionnelles et ancestrales. Ce que nous sommes parfaitement incapables d'assumer nous-mêmes. Combien d'Occidentaux ont-ils laissé le douillet confort européen de leur cours de percussion pour aller s'installer définitivement dans cette Afrique mythique qu'ils idéalisent?
Combien d'Occidentaux ont-ils laissé le confort de la ville pour aller vivre sans eau, sans électricité, sans voiture, sans téléphone, au fin fond des montagnes, même Suisse?
Vivre pauvre dans la liberté plutôt que riche dans l'esclavage, comme disait un grand idéaliste qui a mené son pays à la ruine. Ne serait-il pas temps de chercher d'autres alternatives, loin des clichés éculés de l'histoire? Ne sommes-nous pas en train de continuer à l'écrire, avec la plus parfaite naïveté bien sûr, cette même histoire qui n'en finit pas de bégayer?
Pourquoi derrière les sauveurs de l'Afrique se cachent-ils toujours des nantis coupables des actes de nos ancêtres? Et quand je dis ancêtres, j'inclus la grande culpabilité judéo-chrétienne. À force de traîner le lourd fardeau de leur histoire, les enfants du grand capital n'en finissent plus de se sentir coupables.
Eh oui, il suffit de lire Le long sanglot de l'homme blanc de Pascal Bruckner. Et quant au complexe d'infériorité des villageois qui sous-estiment leur culture, mon cher, nul n'est prophète en son pays. Et c'est un problème universel. Évidemment qu'une revalorisation d'une culture a des effets pervers, mais la mort d'une culture est encore pire. Au moins dans la perversité de la revalorisation, il y a un espoir que les choses vivent et renaissent. Mais dans l'extinction, où est l'espoir?
Avec sa bouille de doux géant rêveur et romantique, le bel Alexandre et sa flûte de Pan me fait penser à Tintin au Congo qui pose avec les bons sauvages.
Instructif, certes, mais très approximatif, avec plein d'avis sur tout et sur rien, avec plein d'humilité et tellement de cette suffisance inconsciente qui savent arborer les Occidentaux quand ils parlent de l'Afrique, avec l'insolente compassion déconcertante des privilégiés, avec des velléités insupportables de pédagogie, de prosélytisme, de celui qui veut nous faire à tout prix partager ses émotions, ses impressions de voyage.
Comme les missionnaires de notre âge voulaient évangéliser les bons sauvages pour les sauver des flammes éternelles de l'enfer, l'histoire est décidément un éternel recommencement.
Cet ouvrage ne nous apprend rien des rapports complexes que nous entretenons avec l'Afrique. Bien au contraire, il nous enferme encore plus dans nos certitudes et dans notre vision caricaturale de celle-ci.
Ils sont cool, ces Burkinabés. En Guinée, on aurait bouffé le petit blanc et sa charmante compagne à la sauce feuille.
Ah, il n'en reste pas moins un superbe reportage photo et un panorama assez complet des instruments pratiqués au Burkina. Souvent, les commentaires sont un peu trop réducteurs et incomplets, mais bon. C'est la limite du dilettantisme.
Le CD est sympa, lui aussi, à l'image du bonhomme. Ça se barre dans tous les sens, mais bon, il faut le prendre comme une illustration sonore du texte et bien écouter les pièces quand elles sont annoncées sur le livret.
Ouais, il est plein de petits moments sympas, chaleureux, quelquefois très faciles. Mais bon, c'est dans ce registre qu'il est le meilleur. Quand il est lui-même un amoureux du Burkina Faso et de sa culture. Mais ce n'est qu'un carnet de voyage. Il faut le prendre comme ça, n'est-ce pas? Ah, autre surprise, quand nous avons entendu un extrait du volume 2 des Percussions de Guinée, la pièce de Crin, numéro 22. Je n'ai jamais entendu dire que Monsieur Alex ait demandé une quelconque autorisation d'utiliser ce morceau.
Ouais, bon, ce n'est pas grave. C'est vrai que chez les Babacool, tout appartient à tout le monde. Et pourquoi s'embarrasser d'avoir le minimum de respect et de politesse pour le travail des autres?
Bon, il n'était pas très content, le père Fatouabou. Il a même dit que cette façon de faire lui semblait quelque peu cavalière.
Reste la question subsidiaire qui sauverait notre aventurier sur la ligne.
Nous espérons que toutes les royautés de cet ouvrage seront intégralement reversées aux Africains, et même les frais occasionnés par le voyage.
Nous n'oserions imaginer que le flûtiste se soit remboursé sur le dos des Africains qui lui ont tellement appris, qui l'ont tellement enrichi, humainement, au risque de se voir taxé de participer d'encore plus près à la formidable hypocrisie latente des enfants du grand capital.
Bon voyage, monsieur Alex.
Et bien le bonjour à Milou.
Qui es-tu? Je suis Mamadi, le fils de Djabaté. D'où viens-tu? Je viens de mon village. Où vas-tu? Je vais à l'autre village. Quel autre village? Quelle importance? Je vais partout où il y a des hommes. Que fais-tu dans la vie, Mamadi? Je suis griot, m'entends-tu? Je suis griot comme l'était mon père, le père de mon père. Je suis griot comme le seront mes enfants et les enfants de mes enfants. Bienvenue à toi, Mamadi. Tu entreras et dès le seuil tu seras chez toi. Le mil sous le vent, la calebasse au bord du puits, l'ombre fraîche sous le damqué. Dans la gourde du miel et dans l'outre du lait, mange si tu as faim. Pour ta soif j'ai du vin, et pour ta peine et pour tes soucis, je serai si tu le veux bien ton ami. Ce soir pour toi, Mamadi, ce soir nos cœurs s'empliront de joie. Dans la nuit bleue, la lune ronde, comme un beignet couleur de miel, est suspendue dedans le ciel et fait envie à tout le monde. Ce soir, le tam-tam sonnera et le village dansera.
Le groupe que vous venez d'écouter s'appelle Instantané, en deux mots, ou plutôt s'appelait Instantané, avec le titre Charter Blues. Ce titre avait été composé en 1998 en déshommage de Monsieur Charles. Non, pas celui qui avait les bras comme un tire-bouchon ou qui les avait compris en 1962, non. Un Monsieur Charles à la grande verve, un Monsieur le père spirituel. Vais-je dire de notre actuel président, voilà, un petit ancien du sac, voilà, un monsieur qui avait de la rhétorique et qui parlait un peu comme Fernandel, voilà. Et à l'époque, les retours au pays étaient chose commune, donc on avait fait ce morceau, le déshommage, qui s'appelait Charter Blues. En parlant de notre Charles, que j'aime bien, un monsieur que vraiment les intimes pourront appeler Hank, qui est connu aussi sous le nom de monsieur Henri Chinaski. Et en fait, je parle du grand, grand, très grand Charles Bukowski. J'avais envie de vous lire un peu un bout d'une nouvelle qui s'intitule « Les ivrognes de 3 heures du matin », tirée du livre « Je t'aime Albert » et les autres nouvelles de Hot Water Music aux éditions Grasset. Voilà, quelque chose qui est un peu, comment dire, qui aurait pu être un peu autobiographique. Voilà, une petite partie des ivrognes de 3 heures du matin sur une très jolie musique d'un autre grand artiste qui s'appelle Monsieur Michel Colombier. Francine s'est tournée vers lui et il l'a enlacée. Les ivrognes de 3 heures du matin dans toute l'Amérique fixaient les murs après avoir fini par renoncer. Pas besoin d'être un ivrogne pour souffrir, pour se faire bousiller par une femme. Mais on peut très bien souffrir et devenir alcoolo. Il arrive qu'on s'imagine quelque temps, surtout quand on est jeune, qu'on a la chance de son côté. Et parfois c'est vrai. Mais il y a en jeu tout un assortiment de normes et de lois dont on ignore tout. Même quand on croit que tout va bien. Une nuit, une chaude nuit d'été, un jeudi, on devient un ivrogne. On se retrouve seul dans une chambre minable. Et peu importe qu'on ait déjà connu ça, ça ne sert à rien. Et c'est même pire, parce qu'on s'était dit que ça n'arriverait plus jamais. Tout ce qu'il reste à faire, c'est allumer une cigarette, se servir un autre verre, regarder les murs qui s'écaillent pour voir si on y découvre un visage. Ce que les hommes et les femmes sont capables de se faire dépasse la compréhension. Tony a attiré Francine contre lui, a pressé doucement son corps contre le sien, et écouter sa respiration. C'était moche d'avoir à se montrer de nouveau sérieux à propos de conneries pareilles. Los Angeles était si étrange. Il a tendu l'oreille. Les oiseaux gazouillaient déjà alors qu'il faisait nuit noire. Les gens allaient bientôt se diriger vers les freeways. On entendait leur bourdonnement, le bruit des voitures qui démarrent dans les rues. Et pendant ce temps-là, tous les ivrognes de 3 heures du matin du monde étaient dans leur lit, à essayer en vain de dormir, de prendre ce repos mérité qu'ils ne trouveraient sans doute pas. Ce que je pourrais rajouter au mot du grand Hank, c'est que des confins du Mali aux plaines de l'Italie, j'ai aimé, j'ai rêvé, mais Niafamou, j'ai compris. Comme a dit un autre grand monsieur, monsieur Lavillier, l'amour est un colis piégé, la haine, un moteur auxiliaire, et l'avenir, un chien crevé sous un meuble. Mais malgré cela, gardons la pêche, restons positifs, et faisons-nous plaisir avec un groupe bien de chez nous en Midi-Pyrénées, un groupe qui s'appelle Teria Groove, avec un titre qui s'intitule Angata. Angata en bambara, ça veut dire on y va, inspiré d'un morceau traditionnel à l'origine qui s'intitulait Sanata.
Ceci n'est que le songe d'une nuit d'été, comme dirait le grand William, et bien sûr, tout n'y est que mensonge et bilvesé. Les rêves déforment tout. Oui, j'ai dû rêver cette période de ma vie située entre septembre 87 et mars 95. Bien sûr, les principaux intéressés vous diront que tout y est faux et ils ont raison. Chacun commande la vérité à sa manière et d'ailleurs, il n'y a jamais une vérité, mais des vérités. Celle-là est la mienne, enfin. La perception qu'il me reste de cette aventure incroyable que nous avons vécue ensemble jusqu'en 95. Il faut bien qu'à un moment donné, les choses tournent au vinaigre, sinon où serait le sel de la vie? Si mes deux copains Télivel et Abou, mes frères devrais-je dire, vous disent qu'il n'y a pas un mot de faux dans ce récit, surtout ne les croyez pas. Ils ont oublié, ou alors, eux aussi, ont dû rêver. Je viens de vous citer le préambule, les histoires africaines ou les pérégrinations d'un petit blanc en Guinée, par François Coquelard. Un feuilleton en 12 épisodes. Premier épisode. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Si, si, je vous assure. C'est comme ça que mon histoire en Guinée a commencé. Bon, pas comme le grand Martin, bien sûr. Lui, c'est une vision qu'il a eue. Moi, c'est un rêve. Seulement un rêve. Un rêve tout bête. J'étais dans ma caravane, au fin fond du Berry, en pleine cambrousse. Eh oui, la caravane, c'est le petit côté nomade que tout artiste a au fond du cœur. On se dit qu'un jour, s'il le faut, on peut partir comme s'il était possible de fuir sa destinée. Perdu au milieu des champs, sur le versant d'un petit coteau, plein ouest avec vue sur le soleil couchant, à l'ombre d'une échelle magnifique ou sous lequel je faisais moins le malin les jours d'orage. Ah, ça a quand même une autre gueule que la vue sur le périphérique. Une nuit, j'ai rêvé que je devais partir en Afrique, dans une ville dont le nom porterait deux K. Comme dans le mien, Coquelard. En flamand des Flandres, du côté de la Belgique, là où aujourd'hui on aime presque autant le djembé que les frites. Un rêve si présent où l'on se demande si l'on est dans la réalité ou dans l'au-delà. Et puis, on se réveille et le souvenir est tenace. Alors on se rendort et l'on retourne dans le même rêve. Ah, de cela on s'en souvient. On se prend alors à penser à une prémonition. Et si ça n'arrivait pas qu'aux autres, ces choses-là? Ni une ni deux, je me procure dès mon réveil un atlas. Je regarde le répertoire. Un cas, deux cas. Cancan, c'est où ça? J'ouvre la page. Oh, en Afrique. Tiens, tiens, en Guinée. Tiens donc. Cancan, ça sonne bien. Pourtant, j'ai jamais mis les pieds. Il faudra qu'un jour j'aille faire un pèlerinage. Même pas à pied, ou à la nage, ou à genoux, non, non, en marchant sur les mains, tellement ce rêve m'a bouleversé. Ah, les rêves. Le bon docteur Jung avait raison. La Guinée. Déjà le nom me fait rêver. Guinée. L'Afrique noire, comme ils disent. Comme s'il y avait en Afrique une Afrique blanche. L'Afrique, c'est l'Afrique. Le reste, on s'en fout. Un jour, à Conakry, je suis tombé sur un vieux document de l'époque coloniale où Conakry était écrit avec deux K. Conakry. Mais ça, l'Atlas ne pouvait pas le savoir. Seuls ceux qui dirigent la section rêve au fin fond de l'univers le savaient. Ah, si je les tenais, ceux-là. La Guinée. J'avais entendu parler de ces ballets légendaires sans les avoir jamais vus. Du batteur mythique, Fodé Youla, qu'on ne connaissait pas encore sous le surnom de Fodé Marseille. De son groupe Africa Diolé et des premiers enregistrements effectués en Allemagne qui constituaient déjà notre Bible. Ah, Kakiambe, notre Paternoster. Diolé, notre Ave Maria. Yankadi, notre Dis Irae. On était bien loin d'imaginer que les Africains noirs pourraient être pieux musulmans. Fodé Youla, l'homme de Locomotive d'or de Claude Nougaro. Mais à part ça, la Guinée, c'était un mystère. Sékou Touré, un monstre sanguinaire, une caricature de dictateur, comme savent nous les faire gober nos livres d'histoire. Où on est soit gentil, soit méchant, pas d'alternative. Le carcan judéo-chrétien. Tout blanc ou tout noir. Pas de place pour les métis. On ne mélange pas les genres au pays du crucifié. Celui qui a osé dire non au grand Charles ne pouvait être qu'un fou. Une bête avide de sang frais. Non à l'immense France salvatrice. Le puits de la civilisation. Le centre du monde et de sa capitale, lumière. Il ne fallait pas dire qu'il nous avait tout simplement botté le cul ou que nous pouvions dire adieu à la bauxite, à l'or, au diamant ou à d'autres denrées précieuses du même acabit. Ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, car nos chères multinationales n'ont jamais quitté la Guinée. La seule différence, c'est que dorénavant, elles devaient payer. Et ça, les capitalistes n'aiment pas. Payer aux anciens colonisés, pas bon. Surtout pour alimenter leurs comptes en Suisse et laisser les pays dans la misère. Au moins du temps de la colonisation, Conakry avait l'allure d'une petite ville des Antilles, propre, bien rangée, organisée. Tiens, les Antilles, une ancienne colonie devenue département. Pas fou, ces Antillais. De vrais Français. Bon, bien sûr, un peu noir, mais français quand même. Avec un département, deux régions et même des indépendantistes fonctionnaires. Il faut le faire, non? Le beurre, l'argent du beurre, et la crémière en plus. Frantz Fanon doit bien rigoler dans sa tombe. Moi, j'étais à des années-lumière de toutes ces histoires. Sékou Touré, un mystère et le petit fascicule que sais-je consacré à la Guinée que j'avais lu et ne m'avait absolument pas éclairé. Un petit musicien bien ordinaire, pas commode, sûr de lui, ayant une opinion de tout et qui se débattait comme ses petits copains au milieu de la faune parisienne qui n'avait déjà pas la réputation d'être très sympa. Avec l'arrogance insupportable du Parigo et de l'aura qu'il exerçait sur le vulgum pecum provincial. Ah, ça avait de la gueule d'être musicien à Paris, capitale des cultures du monde. Encore tout frais émulu d'un séjour au Brésil et qui avait fait chanceler bien les certitudes. Ras-le-bol de cette parisianité superficielle. Et si je partais en Guinée? Et si j'allais à Cancan? Avec un nom pareil, il doit bien y avoir des joueurs de djembé. Comme j'ai entendu parler de cette bourse que donnait le ministère de la Culture aux artistes professionnels pour se perfectionner, avec cette manie de toujours regarder devant et de ne pas m'attarder sur le passé, j'ai oublié. Toujours est-il que j'appelle le ministère de la Culture et expose mon cas. Oui, je suis musicien professionnel et je voudrais aller étudier en Afrique. Long silence. Mais bien sûr, nous avons effectivement des bourses prévues à cet effet, mais il faut que vous déposiez un projet solide avec votre CV, des articles de presse, si vous en avez. Crétin, j'en ai plein. Et si votre candidature est retenue, vous devrez passer une audition devant les spécialistes. Mais je vous préviens, nous avons beaucoup de demandes et peu d'élus. Ça ne m'effrayait pas. Si je m'étais taillé un chemin dans la jungle parisienne, alors j'étais prêt à affronter la savane guinéenne, ses fièvres, ses grands fauves, ses kalachnikovs, ses marxistes, et je pouvais quand même me farcir le gratin des spécialistes du genre ministère de la Culture de la France. Ni une ni deux, je prépare un projet. Je vis mes fonds tiroirs d'articles de presse, de mon CV, qui déjà à l'époque faisait bien 3 pages écrites en petit, s'il vous plaît. Je n'étais pas n'importe qui, moi, monsieur. Et j'envoie le tout rue Saint-Dominique, mais en vérité, sans grand espoir de retour. On les connaît, ces administratifs. Est-ce qu'un joueur de tam-tam pouvait les intéresser? Ils avaient dû regarder ma candidature en se fendant la gueule, les salauds. De toute façon, le tam-tam, ça ne s'étudie pas. Il n'y a pas d'école pour ça. Les noirs, ils ont ça dans le sang, le rythme dans la peau. Génétiquement pulsé dès la naissance, programmé pour danser. Alors vous, petit blanc, vous rigolez. On n'est pas là pour vous payer des vacances au soleil. Retournez taper dans vos caves et surtout, ne nous cassez pas les oreilles. C'est sûr qu'ils avaient dit ça. Je les entends, ces branleurs, ces politicards. Car pour travailler au ministère, il faut tremper dans la politique, n'est-ce pas? Quelle ne fut pas ma surprise de recevoir une convocation du dit ministère. Votre candidature a été retenue, vous êtes convoqué en audition. Veuillez vous présenter avec votre instrument, le... Ah bon? Ils ne sont peut-être pas tous pourris, ces fonctionnaires. Ah, bof, à moins que ce soit pour respecter la procédure. Il leur faut un quota de sauvages pour justifier d'une certaine pluralité hypocrite. Ils croient peut-être que je vais me dégonfler. Ils ne me connaissent pas. Ils vont voir, ces enfoirés. Le jour dit, je me pointe avec mon sac kaki de l'armée allemande, celui qui est assez large pour tenir un djembé, cher percussionniste. Mon djembé à l'époque était un iroko, large de Côte d'Ivoire, d'un teint un peu jaunâtre, très léger, dont j'avais raccourci la cheminée et que j'avais récupéré d'Adama Dramé, je ne sais plus comment, mais qui m'a été volé depuis. Celui qui me l'a volé d'ailleurs m'a fait un beau cadeau, car à la suite de ce vol, j'ai découvert le linké. Le bois des djembés fola, comme le dit Mamadi Keïta. Je me retrouve au milieu de musiciens classiques, tellement propres sur eux qu'ils flippaient à l'idée de se présenter devant un jury qui devait leur attribuer la bourse magique qui signifierait le début probable d'une possible carrière. Ils me regardaient d'un œil surpris, presque craintif, trop angoissé pour être arrogant, trop tendu pour être désagréable, avec cette peur dans les yeux de celui qui ne connaît pas l'extase de la scène et qui est resté scotché devant son pupitre trop longtemps à s'en abîmer la vue. Pauvre petit cousin classique, je te plains quand tu vas passer devant le gratin de la culture nationale. C'est sûr que je faisais un peu tâche dans le cadre de cette audition proprette, un peu celui qui s'est trompé d'adresse. Qu'est-ce que j'étais venu faire dans cette galère? Et puis vint mon tour. Monsieur Coquelard. Coquelard, madame, comme ça se prononce. J'entre dans l'arène, devant un jury d'éminents spécialistes dont je n'avais jamais entendu parler. Qu'est-ce que ces asticots-là pouvaient-ils bien connaître au djembé? Allez, je me lance. Je prends mon djembé et j'y vais. D'abord doucement pour me chauffer. Puis je monte en puissance. Des yeux se lèvent, des bouches s'ouvrent. estomaqué. C'est bon signe. J'en rajoute une couche. Mes mains sont bien chaudes maintenant. Je sens les claquer au bout des doigts avec un léger petit picotement. Je cartonne. Rien à perdre. Les toniques sonnent, bien rondes. Rien à faire de leur bourse. Je suis venu là pour jouer. Je vais leur casser les oreilles. Ça tourne. Elle sonne bien cette salle. Je m'éclate. Ah, Djembe quand tu nous tiens. Ils vont voir ce que c'est qu'un tam-tam, comme ils disent. Je joue, je délire. J'assume peut-être même que j'ai chanté dans un mauvais sous-sous appris à l'oreille. Les vieux devaient sursauter à l'ombre des fromagers géants que je ne connaissais pas encore. L'innocence du débutant, l'irrespect de l'iconoclaste, la naïveté imbécile du babacool. Merci, on vous écrira. Et je croisais en sortant le regard apeuré d'un jeune violoniste terrorisé à qui c'était le tour. Vous pouvez lire et télécharger le feuilleton Histoires africaines ou les pérégrinations d'un petit blanc en Guinée sur le site de François Coquelard. http://heuredute.com à la rubrique texte. Actuellement le groupe Pulse avec un titre qui s'appelle Parfum d'épices sur l'album Souffle d'ébène.
C'est fini, c'était une émission proposée par Jamissi et Jacari. Au montage, il y avait Alexandre. Et en musique et dans l'ordre chronologique, vous avez pu entendre Eddie Louis, King Kong, Toumani Diabaté, Cheikh Oumar Ba sur l'album Jelika, Parole de Griot, Famoudou Konaté, Balakulania sur l'album Rhythm d'Hermalenke, Instantané, Charter Blues sur l'album Stuck on You et Toumani Diabaté de nouveau, le grand joueur et mythique Rio du Mali, le monstre de la Kora avec un titre qui s'intitulait Tony Vander sur l'album Jellica. Et évidemment, en dernier, Teria Groove avec le titre Angata. C'était notre petit coup de pouce web aux artistes Midi-Pyrénées. Vous pouvez les retrouver sur le site http://my.zikinf.com/teriagroove. Ou tout simplement taper le nom Teria Groove, TERYAGROOVE, sur Google. Vous pourrez voir une vidéo d'extrait de leur spectacle, visionner des photos et évidemment réécouter à loisir les titres de leur répertoire. Au revoir.
À une prochaine émission pour D'ici, je suis là-bas.